aide, vrai compagnon de travail, c'est peut-être Épaphrodite, aide celles qui ont combattu avec moi dans l'Évangile, avec Clément et avec les autres compagnons. Vous voyez, elles étaient dans l'équipe de Paul. Elles étaient solidaires, elles étaient soudées avec l'équipe, elles étaient zélées pour combattre avec Paul dans l'Évangile et avec les autres. Et puis, il n'oublie pas de dire, c'est étrange cette place-là, cette mention du livre de vie, dont les noms sont dans le livre de vie. Eh bien, j'en tire la leçon, j'en tire l'instruction extrêmement consolante que c'est pas parce qu'un croyant a eu des difficultés relationnelles, je pense que ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre, quand on a un peu vécu, on se rend compte que dans la vie, même dans la vie d'assemblée, dans la vie des familles, le côté relationnel, c'est parfois très délicat. Eh bien, ça ne touche en rien à notre place dans le livre de vie. Pourquoi Paul le mentionne ici? C'est surprenant. Il va jusqu'à parler du livre de vie alors qu'il parle de deux sœurs qui avaient des tensions entre elles. Non, nos défaillances ne changent rien à la place que nous avons dans le livre de vie. Et Dieu n'oublie pas non plus le zèle que nous avons pu déployer, même si nous avons des difficultés relationnelles. Donc le livre des conseils de Dieu, le livre de la vie naturelle, le livre de la vie éternelle. Et puis, au psaume 56, un autre livre, verset 8, psaume 56 de David, verset 8. Tu comptes mes allées et mes venues, mets mes larmes dans tes vaisseaux. Ne sont-elles pas dans ton livre? C'est le livre de nos épreuves. Nous en avons traversé les uns et les autres. Nous avons peut-être, c'est mon habitude de noter sur un cahier tous les événements de la famille depuis près de plus de 20 ans. Et c'est vrai que j'ai noté aussi les épreuves familiales qu'on a traversées. Mais Dieu a son livre. Pour chacun de nous, et certainement plus nous avons vécu, plus nous avons traversé d'épreuves, mais pas obligatoirement, il y a aussi des jeunes qui sont éprouvés. Il y a des épreuves publiques que tout le monde connaît, et il y a des épreuves secrètes qu'on ne peut partager avec personne, et ce n'est pas les moins lourdes. Il y a des épreuves spectaculaires, où on a peut-être la sympathie de tous les amis qui nous sont là, qui nous entourent, parce qu'ils connaissent notre épreuve, et puis il y a des épreuves dans lesquelles on est profondément seul. Et peut-être aussi les épreuves les plus pénibles, quoique ce soit très délicat d'établir une hiérarchie en la matière, mais il y a quand même des épreuves qui sont longues, qui nous usent. Il y a des épreuves aussi qui sont délicates, je mentionnais les tensions relationnelles. On est profondément bouleversé parfois, parce que justement, il devrait bien y avoir la communion dans l'assemblée, dans les familles. Et parfois, des tensions nous tombent dessus comme ça, des ruptures de communion dans les familles. Peut-être qu'il y a des circonstances qui vont favoriser, oui, mais c'est que nous n'avons peut-être pas été attentifs, nous n'avons pas eu la bonne attitude, et puis les choses se sont brouillées. Mais enfin, il y a des quantités d'épreuves, puis il y a les deuils. Il y a les deuils, les déchirements, les ruptures, les disparitions. Et là, David dit, mets mes larmes dans tes vaisseaux. On ne peut pas traverser la vie sans pleurer. Nous pleurons tous, nous avons tous pleuré, un jour ou l'autre. Et le sujet des pleurs dans l'Écriture va de la Genèse à l'Apocalypse. Je crois que la première mention des pleurs, c'est quand Agar, la servante de Saraï, est chassée par sa maîtresse et puis s'en va, vous savez, dans le désert, et elle éleva sa voix et pleura. Ce verset est profondément touchant parce que qu'est-ce qu'il est dit à la suite ? Et Dieu entendit la voix de l'enfant. Il n'est pas dit qu'il ait entendu les cris de détresse et des pleurs d'Agar. Et ce verset, je m'en souviens d'autant plus parce que il nous avait été donné un jour qu'un enfant à l'hôpital très malade. Et on priait pour lui. On priait pour cet enfant. Et voilà qu'on a reçu ce verset. Et Dieu entendit la voix de l'enfant. Pas seulement des parents. Ce n'est pas forcément les parents qui sont les plus importants. On voit l'attention de Dieu à l'égard de ce petit enfant qui va mourir, qu'elle a mis sous le buisson et elle s'est éloignée pour ne pas le voir mourir. C'est un passage bouleversant, je trouve. Eh bien, de ce passage jusqu'à Apocalypse 21, où il est dit, Dieu essuiera les larmes de dessus tout visage. Mais, et entre ces deux passages, vous savez, il y a beaucoup de pleurs. Il y a les 7 passages des larmes de Joseph. Mais il y en a beaucoup d'autres. Moïse a commencé sa vie en pleurant, un petit enfant qui pleurait sur le Nil. Déjà, il souffrait. Enfin, c'est peut-être naturel qu'on commence sa vie en pleurant, mais c'est peut-être symbolique aussi. Notre vie est jalonnée de larmes. Eh bien, Dieu enregistre nos épreuves beaucoup plus précisément que sur mon cahier. Et c'est quand même rassurant de savoir que Dieu connaît nos épreuves. À chacun, moi je ne les connais pas les vôtres, je vois vos visages, mais derrière chaque visage, il y a toute une histoire, derrière le mien aussi. Mais Dieu sait. Je pense à Charles Studd, champion de Dieu. Vous n'avez pas lu sa biographie, elle vaut la peine. Eh bien, il a été missionnaire en Chine jusqu'à l'âge de 50 ans. Et à 50 ans, il est revenu de Chine, en Angleterre. Et à 50 ans, il aurait bien eu droit de se reposer. Non, non content, il est reparti au cœur de l'Afrique, cet homme, infatigable. Et un jour, il a envoyé un télégramme en Angleterre, avec ces mots, ces simples mots, « Je suis dans de grandes difficultés, mais je sais qu'il le sait. » Point. C'est tout. Alors répétons aussi, parfois, si c'est nécessaire, « Je suis dans de grandes difficultés, mais je sais qu'il le sait. » Oui, c'est rassurant que Dieu le sache. Peut-être les amis n'en savent rien. De toute façon, ils ne pourraient rien faire pour nous aider. Je me souviens... On était jeunes mariés, et puis les circonstances ont fait que, je vous passe les détails, nous étions avec mon épouse dans une grande détresse morale. Et un frère est venu nous voir. Et c'est délicat de savoir ce qu'il faut dire dans ces cas-là. Et je me souviendrai toujours que ce frère a lu les premiers versets du psaume 20. Les premiers versets du psaume 20. Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse. Que du sanctuaire, il envoie ton secours. Il ne pouvait rien faire d'autre que souhaiter que le secours vînt d'en haut. Vous voyez, le psaume 20 commence par ces mots. Mais il avait juste lu ce qu'il fallait à un jeune couple dans la détresse. C'était à la fois l'aveu de son impuissance mais le souhait que le secours vienne du sanctuaire. Oui, nos épreuves, aux uns et aux autres, sont inscrites dans le livre de Dieu. Et il met ses larmes dans ses vaisseaux. Je crois me souvenir, le fait de mettre les larmes dans des vaisseaux, c'était une coutume en Israël. On recueillait les larmes dans un petit flacon et on les portait peut-être sur un collier, enfin je ne sais pas, on les conservait. Et Dieu prend cette image et conserve nos larmes. C'est touchant, ce passage. Il sait, il connaît nos difficultés. Et il nous accompagne au travers de ces difficultés. Tu comptes Dieu, ô mon Dieu. Mes allées, mes venues, mes larmes dans tes vaisseaux ne sont-elles pas dans ton livre? Le livre de nos épreuves. Dans le livre des Nombres, on rencontre un autre livre... Nombre 21, verset 13. Donc, c'est le résumé des pérégrinations d'Israël. De là, ils partirent et campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui est dans le désert, sortant des limites des Amoréens, car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et l'Amoréen. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vaeb en Sufa et les rivières de l'Arnon, et le cours des rivières qui tend vers l'habitation d'Ar, qui s'appuie sur la frontière de Moab. Le livre des guerres de l'Éternel. Alors sur ce livre, il y aurait beaucoup à dire. Parce qu'en fait, ce livre des guerres de l'Éternel pourrait même se superposer à ce livre que nous tenons entre les mains. Parce que dans un sens, oui, c'est vrai que ce livre que nous tenons entre les mains, le livre de la révélation de Dieu, Dieu se révèle à nous dans ce livre. Mais c'est aussi le livre des guerres de l'Éternel. Ce livre est l'histoire d'un grand conflit, de Genèse, on peut dire de Genèse 1, verset 3, verset 2, jusqu'à Apocalypse 20. Ce livre est l'histoire d'un grand conflit entre Dieu et le diable, dont l'homme est l'enjeu. C'est ça en quoi nous touche ce conflit, cette guerre. C'est que nous en sommes les êtres humains, l'humanité tout entière en est l'enjeu. Et quand on lit les premiers versets de la Genèse, on lit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, c'est merveilleux jusque-là, tout va bien. Et certainement, ces cieux et cette terre étaient beaux, créés par Dieu. Et puis, au verset 2, il dit, la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Déjà là, nous avons un malaise. Je compare ce verset 2 à un chœur, un orchestre, qui est en apprentissage. Et le chef d'orchestre, il a entendu 3 fausses notes. Mais ceux qui sont novices en musique n'ont rien entendu. Moi, la première fois que j'ai lu ce texte, mais même je l'ai lu bien des fois sans voir qu'il y avait 3 fausses notes. Mais le chef d'orchestre, il est habitué. Il entend les fausses notes. Dieu n'a pas fait la terre pour être vide. Il y a 3 mots qui sonnent faux. Désolation, vide et ténèbres. Alors que Dieu veut la beauté, il ne veut pas la désolation, il ne veut pas le vide, mais il veut la plénitude, et il ne veut pas les ténèbres, mais il veut la lumière. Bon, que s'est-il passé? On a pensé que c'était la chute des anges causée par ce chérubin oint qui couvrait, dont il est parlé dans 2 passages des prophètes, Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Eh bien, dans ces 2 chapitres, sous la forme du roi de Tyr, certes, mais Satan dit, « Je suis Dieu, et je suis assis sur le trône d'un Dieu. Je suis semblable au Très-Haut. » Et déjà, il y avait cette pensée que Satan voulait être égal à Dieu. Et il ruine cette première création que Dieu avait faite, belle, et il sème le tohu-bohu, puisque c'est en hébreu, je crois que c'est le sens de ce verset, tohu-bohu, c'est désolation, vide et ténèbres. Mais Dieu ne peut pas être défait par Satan et crée les cieux et la terre de maintenant, sous lesquels la terre et les cieux tels que nous les voyons maintenant. Et j'ai mis longtemps à comprendre pour moi-même que les versets 3 et tout le reste du chapitre 1, c'était une création dans le sens de la restauration par rapport à ce que Satan avait jeté dans le chaos. Et cette restauration de la création pourrait être illustrée par une expression de Jérémie. Dieu avait fait un vase, un premier vase, et le premier vase fut gâté. Et Dieu fit un autre vase, Celui-là, il n'est pas gâté.